Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bonjour et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Nous sommes très heureux de vous retrouver, mais surtout de vous raconter l'extraordinaire histoire de l'épopée de Calais. En Coupe de France, c'était en l'an 2000. Cette histoire, c'est tout ce qu'on aime dans le sport. Une équipe de sportifs amateurs qui va réaliser l'exploit de se hisser en finale de la Coupe de France. Une odyssée humaine qui va emporter toute la ville de Calais, et même tout le pays. Un dénouement cruel, tragique, et des souvenirs pour toujours. On va vous raconter tout ça ce soir avec Chloé.
Salut.
Younes.
Salut à tous.
Olivier.
Bonsoir.
Et pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance, je vous propose d'écouter un extrait, le retour de l'équipe de Calais après sa qualification pour la finale de la Coupe de France dans sa ville.
Nous sommes le 12 avril, mais tout rappelle un certain 12 juillet. La rue Royale ressemble aux Champs-Élysées. Ce n'est que la Coupe de France, mais pour eux, c'est bien plus que la Coupe du Monde. Il est 3 heures du matin, ils sont près de 5000 Calaisiens sur la place de l'Hôtel de Ville.
C'est une joie immense! Magnifique!
Vraiment, ils m'ont fait pleurer jusqu'au bout. Parce que des mecs qui ont autant de cœur que ça, on n'en voit que dans le Nord et vraiment, ça fait plaisir. Super Calais!
D'habitude, je regarde jamais le foot. Et là, en tant que personne, même pas amateur de foot, j'ai trouvé ça génial, extraordinaire qu'une équipe d'amateurs puisse battre une équipe de professionnels. Et là, je dis bravo Calais! Bravo!
J'ai jamais vu autant de monde comme ça se rassembler à Calais. Pour un match. C'est vraiment sensationnel. Et je les remercie beaucoup. Alors, ils nous ont fait vraiment une belle joie. Là.
Alors, Olivier.
Oui.
Peux-tu me dire ce que tu ressens à l'écoute de cet extrait et ce que t'as fait ressentir cette épopée de Calais? Est-ce que tu la connaissais? Est-ce que tu as vibré?
Déjà, je ressens une grande joie ce soir car c'est un sujet foot et il y a Chloé.
Ouais. Yeah.
Ah, donc déjà c'est déjà beaucoup d'émotions. Il faut que mon cœur et mon âme et mon corps enregistrent tout ça. Calais, moi je m'en souviens, j'étais à Vierzon à l'époque. Alors voilà, Coupe de France, c'est pas toujours des joies puisque étant supporter de Marseille, on a connu des illusions beaucoup contre des clubs comme Calais justement, comme Canet-en-Roussillon ou Carquefou, voilà. C'est toujours sympa de les placer quelque part en France.
Sur la carte.
Moi, je me souviens que c'était l'événement, même à Vierzon, je me souviens que même les gens avec qui j'étais...
Vierzon s'est dit, c'est possible, nous aussi, on le fera un jour.
Vierzon s'est dit, ils attendent toujours. Voilà. Et même eux ont mis la radio, j'étais en voiture, même eux ont mis le Europe 1 pour écouter le match en direct parce que c'était incroyable. J'ai pas vu Calais-Nantes, j'ai vu que la deuxième mi-temps en vrai.
Ouais.
Mais on était en retard et du coup ils ont mis le match alors qu'ils n'étaient pas du tout fans de foot, ce qui prouve à quel point ça a percé quand même les frontières des non aficionados du football.
Merci beaucoup. Et toi, Chloé?
Bah alors moi déjà, vous me faites revenir pour du foot.
Ouais.
D'aucuns diraient c'est honteux. Et voilà, petit hommage à Monsieur Malville aussi, qu'on a perdu il n'y a pas longtemps. Au-delà de ça, absolument aucun souvenir, je pense que j'ai pas du tout vécu Calais.
Après, t'avais moins combien?
Moins 3 ans. Ouais, non, j'étais en phase préparatoire, mais de conception à ce moment-là. Mais par contre, moi j'aime beaucoup l'histoire d'outsiders, de personnes qui se retrouvent sur le devant de la scène alors qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ça, même s'ils en avaient vraiment envie. Et là, ils en avaient très très envie. Donc c'est une super histoire, je suis ravie de revenir pour ça.
Ouais, et toi Younes, fais gaffe, t'as que une minute pour répondre à la question.
D'accord, et ben je vais prendre mon temps justement. Et ben non, tout le monde se souvient de l'endroit où il était, même Chloé, du coup, puisque tu étais en conception. Non, mais tout le monde se souvient de ce moment, et puis c'est un événement qui a dépassé largement dans l'Hexagone. On en a parlé même à travers le monde. Il y a eu énormément de papiers sur Calais et sur leur exploit. Ils ont représenté à un moment donné, bah, forcément, le petit poussé. Et à travers l'échelle de ce que c'est une compétition professionnelle, on va s'en rendre compte dans l'épisode. Moi, je me souviens très bien. J'étais déjà adulte, hein, vous pouvez l'imaginer. Et je me souviens.
On rappelle que tu as l'âge de la Coupe de France. On verra plus tard.
Exactement, mais... on verra plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais je me souviens de la déception que j'ai eue, en fait, et de l'injustice à la fin de la finale. Voilà.
La vie est injuste, Younes, c'est pour ça.
Et toi, Sarah, est-ce que
tu te souviens de
A priori, même si tu voulais regarder la finale, on te l'a empêché.
Oui. On t'a demandé de te coucher.
Pour être tout à fait honnête, je suis complètement passée à côté dans mon enfance de l'épopée de Calais. Je ne la connaissais pas du tout. Et donc, j'étais ravie d'apprendre, de connaître cette histoire. Enfin, je trouve que c'est beau, c'est fort. On y reviendra, mais j'adore ce côté foot amateur où les mecs, ils gagnent un match et le lendemain, ils sont au taf. Ils sont au taf à 6h du matin. Enfin, c'est super. Et il n'y a que le sport qui peut nous faire vivre ça, finalement.
Ces moments-là.
Exactement. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, pas tout à fait encore, puisqu'on voulait quand même vous en dire un peu plus sur cette compétition qu'est la Coupe de France, pour ceux qui ne la connaissent pas bien. Et on va commencer tout de suite par un petit 60 secondes chrono.
Et oui, la Coupe de France. Alors, c'est une coupe qui se passe en France. Voilà, allez, 3 secondes.
Bravo.
Un record.
J'ai compris.
Coupe de France, à ne pas confondre avec le championnat. Coupe de France, c'est donc une coupe. C'est à élimination directe et elle a cette particularité qu'elle, tous les clubs français peuvent y participer, y compris au plus bas niveau amateur. J'ai moi-même joué la Coupe de France.
Et oui,
ça, voilà. C'est incroyable.
Et
oui,
et tous les fédérés, tous ceux qui sont.
On s'est fait éliminer dès le premier tour. Donc, ça existe depuis 1917. C'est une coupe qui a été créée un peu pour soutenir l'effort de guerre à l'époque. Et ça a été créé avant le championnat de France. Donc, la Coupe de France était considérée un peu comme une plus qu'une Coupe de France, un championnat à élimination directe. À savoir que, du coup, bah, c'est très simple. On tire au sort. C'est très simple. Et l'une équipe rencontre l'autre selon le tirage au sort. Et s'il y a encore, au bout des 90 minutes, un match nul, prolongation, puis tir au but, sachant que c'est d'abord, on rentre selon son niveau. Donc, quand on est au niveau des plus bas, comme le SL Chaillot, le club, on rentre tout de suite en juillet. Et l'année d'avant. Les clubs professionnels Ligue 1, Ligue 2 rentrent un peu plus tard. Les clubs de Ligue 1 rentrent en 32e de finale. Donc, il y a quand même un sacré Calais à jouer énormément de matchs, on va le voir, avant d'affronter les clubs professionnels. Le club le plus titré, c'est le PSG, 14 titres. Avant, c'était l'OM, mais après.
Il y a eu l'argent après.
C'est plus fort. Ouais, moi aussi, il y avait un peu d'argent. Deux particularités, Le Havre et Guingamp, qui sont les deux seuls clubs de D2 à avoir gagné la Coupe de France. Et Calais, le seul club de division inférieure D4 à être allé en finale. Ce qui nous permet donc, de coup, de faire juste un tout petit topo sur les divisions.
Les différentes divisions.
En football, il y a la division 1, 20 clubs maintenant, ça va passer à 18 clubs de nouveau bientôt. La division 2, ça, ce sont des clubs professionnels. En national, il y a des clubs professionnels parce que ce sont les clubs qui descendent des deux, qui ont 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus, avant de retrouver le statut amateur, mais ils sont encore un peu professionnels. Et ensuite, des clubs amateurs. Et à partir de la CFA,
le club de football amateur de Calais,
on est dans le championnat amateur, donc CFA, mais encore national. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, amateur national, CFA, CFA 2, et ensuite on part en régional, puis en départemental.
Puis en communal, non.
Voilà, et CFA, ne pas confondre avec 333 francs 1000 CFA, qui n'a strictement rien à voir.
Exactement, CFA étant club de football amateur. Voilà.
Et sachant qu'aujourd'hui, ça s'appelle National 2.
Championnat de France, amateur.
Oui, pardon.
Et maintenant, c'est
plus D1, c'est Ligue 1, et D2, c'est plus D2. C'est Ligue 2, National, ça reste National. Ouais. Et CFA, ça n'existe plus, c'est National 2.
Exactement.
Voilà.
Merci beaucoup pour cette courte mais précise présentation de la Coupe de France. Alors, peut-être justement, comment on la considère un peu, cette Coupe de France, dans le football français? C'est moins prestigieux que la L1 ou non, finalement c'est aussi bien?
Alors oui, effectivement, c'est moins prestigieux que la L1 parce que, effectivement, comme c'est la doyenne, elle réunit en fait, elle ventile énormément, mais surtout elle fait participer un peu tous les clochers, comme on dit. Et donc là, on...
Que se passe-t-il?
On ne s'y attendait pas, celle-là.
Les 36 000 clochers français.
Tout tout le monde est concerné en fait. Alors effectivement, les clubs de football professionnels, de l'élite comme on les appelle, ça implique la médiatisation, ça implique les stars, ça implique beaucoup d'argent et des moyens de télévisuels en fait pour couvrir les événements. Et alors que la Coupe de France, comme le précisait Olivier tout à l'heure, parfois ça peut commencer au mois de juillet pour les clubs qui sont vraiment au tréfonds des classements, et ça implique tout le monde un petit peu comme une sorte de fête du village hein, quand on reçoit l'équipe locale d'à côté. Voilà.
Et alors quand même, ce qui est sympa dans cette Coupe de France, c'est comme il y a tout le monde, de temps en temps on a des surprises.
Il y a des surprises.
Exactement.
Parce que aussi, mais ça arrive souvent des surprises, alors pas toujours D1, 4e division, 5e division, quoique ça arrive souvent, par la simple bonne raison qu'au bout de deux niveaux d'écart, c'est forcément le club inférieur qui reçoit.
Voilà.
Quand je dis inférieur, c'est inférieur dans la division. Ouais. Donc forcément, les champs de patates, la pluie, le machin, le soutien populaire local.
Alors Chloé, le champ de patates, c'est pas littéralement un champ de pommes de terre.
Oui.
C'est un mauvais terrain.
Là, je retombais sur mes pattes à peu près, je servais quelque chose, mais non, c'est bon.
Le champ de patates, ça m'a perdu, c'est bien simple.
Voilà. On va pas parler de légumes.
Non, voilà. Ouais. Non, mais, je sais pas pourquoi je dis. Oui, parce que Chloé monte un champ de légumes en ce moment chez elle.
Coopérative indépendante.
Exactement, c'est pas une coopérative.
Et surtout, c'est dans un calendrier. Le calendrier est très dense et souvent on fait tourner. Oui. Voilà. Et il y a aussi un truc qu'il faut dire, et c'est le cas pour Calais, c'est que mine de rien, même si c'est des clubs amateurs, c'est aussi des clubs où les joueurs sont passés par des centres de formation professionnels.
Oui.
Ils ont été recalés pour telle ou telle raison, mais ils ont quand même une technique et parfois même le physique qui fait de presque professionnel.
Ils ont eu la formation au minimum jusqu'à 17-18 ans d'un
avant
professionnel
de se faire recaler.
Donc, avant d'être.
Ceci explique aussi cela, et c'est par exemple Cédric Schill
ouais. Reginald Beck
à Metz, on verra quand on fera la présentation des joueurs, mais voilà, donc il y a ce niveau qui est resserré sur un match, tout peut arriver
sur un match, sur l'engagement et sur la démobilisation aussi des professionnels qui parfois mettent au second rang en fait la priorité de la Coupe de France pour des raisons qu'on n'ignore pas, c'est des raisons de calendrier en fait, c'est que les calendriers sont très denses, et les professionnels font des choix arbitraires comme ça en se disant les conditions sont mauvaises, je risque de me blesser, je me mets en péril, et peut-être que dans l'engagement il y a un peu moins de premier degré. Tu lèves la main, Chloé, vas-y.
Je lève la main, j'ai une question, mais du coup c'est une remarque que je me faisais. Il y a énormément de championnats et de compétitions différentes en foot. Est-ce qu'ils sont obligés de participer obligatoirement parce qu'ils sont affiliés à ça?
Ils sont affiliés à la Fédération Française de Football, et effectivement ils ont une obligation de présence, et sinon ils ont une sanction. Tout
d'accord.
Simplement.
C'est une très bonne question. Par exemple, il y avait deux coupes pendant un temps. Il y a une autre coupe où seulement les clubs professionnels pouvaient jouer. C'était la FFF qui avait mis ça en place. C'était la coupe de la.
C'était la Ligue, justement.
Oui, la Ligue. C'était donc la coupe de la Ligue. Effectivement.
Et
ça rajoutait des matchs et c'était tout pourri. Et on a enfin abandonné cette compétition de merde.
Pour finir par la regretter 2 ans plus tard.
Pour se concentrer sur la Coupe de France, qui est beaucoup plus prestigieuse dans le sens, selon moi et selon beaucoup de...
C'est la doyenne.
Où elle met en exergue tous les clubs de foot français.
Un petit dernier mot avant de parler plus vraiment de Calais. Cette Coupe de France, elle permet aussi quand même de se sélectionner pour un niveau européen après, pour
en fait,
une Coupe européenne.
Tu gagnes la Coupe de France, tu es en Coupe d'Europe. Donc avant même, un peu technique ce que je veux dire, tu étais en finale de Coupe de France si le vainqueur, le club qui te battait, était déjà par le championnat
champion de France,
ou dans les trois premiers, tu pouvais aller en Coupe d'Europe. Ce qui fait que mon club, mon autre club de cœur avec l'OM, Châteauroux, ils ont été en finale de Coupe de France. Ils se sont fait battre par le PSG, je crois, qui était déjà en Coupe d'Europe.
Tout à fait.
Du coup, on s'est retrouvé avec un Châteauroux, je ne sais plus quoi, en Coupe d'Europe, Bruges, je crois. Et Châteauroux a perdu.
Ils sont allés jusque-là, et ça, c'est beau.
Et ça, c'est magnifique.
Il ne faut pas lâcher ses rêves.
Merci beaucoup. Alors après ce petit détour, dis-en-moi un peu plus, c'est quoi finalement cette équipe de Calais, le Calais Racing Union Football Club, fondé en 1974,
si je m'abuse. C'est des super gars.
Le CRUFC.
C'est des types comme ça.
C'était comme ça.
Le CRUFC, ils sont à l'image de beaucoup de clubs amateurs en fait, qui composent un peu avec des anciens de clubs de formation, de clubs voisins qui ont un surplus d'effectifs, beaucoup de joueurs de l'équipe de l'époque venait de Dunkerque et effectivement faisait le voyage jusqu'à Calais pour pouvoir s'entraîner et participer.
Et peut-être c'est intéressant de dire aussi un peu, peut-être on reviendra dessus après, mais ce que Calais, c'est quand même une ville qui a été bombardée à 90% pendant la guerre, Donc oui. Il y a un peu cet esprit
on peut parler un peu du territoire, effectivement. C'est une ville qui a été détruite. C'est une ville qui fait encore l'actualité. Aujourd'hui, on fait l'émission 20 ans après les événements de la Coupe de France en 2000. Mais c'est une il y a une médiatisation autour du flux migratoire. Il y a une médiatisation aussi avec un taux de chômage important et une image qui est plutôt dégradée.
Une ville ouvrière.
Ça rappelle un peu l'épisode qu'on a fait sur Saint-Étienne en 76.
Et voilà, j'allais revenir à cet épisode où effectivement énormément de similitudes avec finalement un creuset populaire qui a porté à l'époque en tout cas le football club de Calais, le CRUFC. Jusqu'en finale.
Du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas concentrés tout de suite sur le foot, parce que le club, il a été fondé qu'en 74.
Le club de Calais lui-même est assez récent, c'est vrai.
Le CRUFC, oui. Alors, évidemment, il y avait un club bien plus ancien avant le CRUFC.
Que tu as connu, toi.
Oui. J'étais là pour sabrer le champagne, tout à fait. Et en fait, c'est la fusion en fait de deux clubs, le CRUFC, et donc on a une forme d'association sportive qui permet justement de repartir, mais qui joue au stade Julien Denis, donc un stade très ancien stade.
Un peu vétuste, il est présenté comme vétuste, mais chaleureux.
Chaleureux.
Ah, ils disent avec une âme. Dans le documentaire, on en parlera peut-être un peu après, mais ils disent qu'ils s'entraînaient, il n'y avait même plus de pelouse sur le terrain.
Ils appellent ça l'annexe. Visiblement, c'est très connu là-bas. L'annexe, c'est vraiment le terrain d'entraînement où il ne faut pas aller, mais ils sont obligés.
Boîte. Ouais,
c'est pas une boîte.
C'est pas une boîte sélecte.
Léon, tu vas où? Je vais à l'annexe. Ah ouais. Là, c'est sûr, on t'accepte à l'annexe. Hein.
Mais avec tes baskets, tu rentres.
Et où il n'y a pas de. Effectivement, et où tu. C'est le kiné qui disait ça. J'avais les joueurs qui venaient avec les genoux ensemble, parce que si tu tombais sur le terrain, il n'y avait pas d'herbe, tu te faisais les genoux, quoi. Et cette équipe, elle est à l'image aussi un peu de cette ville. Elle est très solidaire.
Complètement.
L'entraîneur est arrivé, Ladislas Lozano, dont on va beaucoup reparler par la suite, très charismatique, est arrivé en 98. Il a décidé de se munir d'un staff très resserré autour de lui, avec deux adjoints qui sont Philippe Bram, comme le sert, et Richard Elena, et un kiné. Elena
Noguera.
Elena Noguera, tout à fait. Un manager général qui est très humain aussi, et qui avant tout, qui est décédé depuis, qui est Claude Thériault. Et c'est ce que tu disais, Sarah, des joueurs qui donc ont un boulot à côté. Je veux dire, là, on va présenter des joueurs qui travaillent à côté.
Chloé, est-ce que tu veux nous présenter peut-être l'un des joueurs ou Younes, comme vous préférez?
On peut partir sur le gardien, Cédric Schill. Je le prononce bien?
Très bien.
Oui, excellent.
Mieux que lui-même.
Autant quand c'est des langues étrangères, j'arrive, mais alors quand c'est...
Cédric, tu le prononces particulièrement bien. Franchement, c'est assez bluffant. Ouais.
Qui est en emploi jeune à l'époque. Et il se fait recaler du centre de formation de Metz.
Exactement. Donc c'est quand même quelqu'un qui, en tout cas, a été formé un petit temps. Il y a le capitaine aussi, l'âme de l'équipe, Younes.
Reginald Beck. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais...
Alors lui, il vient du Havre.
Exactement.
Il vient du Havre,
Il vient même du Havre. Il est commercial dans une entreprise d'agencement de magasins.
Arrière gauche à l'annexe.
Exactement. Il y a le buteur à l'annexe aussi.
Michel
Gérard, magasinier. Alors lui, c'est incroyable parce que quand même, il commence à bosser à 2h du matin. Il va à l'entraînement le soir.
Du 2h-11h.
2h-11h. C'est quand même assez.
Lui, c'est l'enfant du pays, pur calaisien. Et voilà.
Et puis, il y a Christophe Hogard. Le milieu de terrain multifonction, animateur au centre d'action sociale de Loon-Plage.
Loon-Plage, je connais bien.
C'est vraiment, c'est fou quand on compare à des joueurs professionnels. Est-ce que leur vie n'ont rien à voir? Ils s'entraînent quand même trois fois par semaine là, avec leur boulot à côté. C'est quand même pas mal.
Même Manu Vasseur, Emmanuel Vasseur, qui est censé. Je me souvenais de Manu Vasseur. Je me souvenais très bien parce que je l'ai trouvé très très fort, etc. Et donc là, je reviens sur sa page, etc. Et il est peintre en bâtiment, quoi. Enfin, je veux dire.
Complètement.
Et pur calaisien d'ailleurs.
Alors, j'aimerais marquer cette différence. Aujourd'hui, dans le football amateur, il y a quand même des contrats fédéraux. C'est quand même des joueurs professionnalisés à travers en fait un salaire que la Fédération française de football autorise certains clubs à verser en fait à des joueurs. Donc on a quand même une proportion de professionnels aujourd'hui même dans les clubs amateurs, ce qui n'était pas le cas à l'époque.
Mais Michel Gérard, je crois, il est magasinier, mais il a aussi un fixe
avec le
ça d'ailleurs qu'il n'a pas le choix quand il doit rater un
match parce qu'il rate la naissance
de son deuxième enfant. Lozano lui dit t'as un fixe avec le club, t'es là.
Ouais. C'est du Lozano dans le texte.
Alors peut-être qu'on veut commencer un peu à raconter le début de la compétition de Calais. Donc ça offre, on l'a dit, la possibilité aux petits clubs de peut-être affronter des équipes de Ligue 1, de Ligue 2, D1, D2 à l'époque. Ces équipes, tu l'as dit tout à l'heure Olivier, elles rentrent en compétition en 32e de finale, mais pour l'instant on n'en est pas du tout là, puisque Calais va affronter
Hédin.
Campagne-les-Hédins, division ouais. 10, Campagne-les-Hédins, c'est...
Oui, c'est ça, c'est très très loin, et en fait, c'est une petite commune du Nord, alors, Pas-de-Calais, donc là, on est vraiment sur un affrontement régional, ouais. Enfin, de département, quoi. Ouais. Et ils les battent très logiquement, 10-0, donc là, il n'y a vraiment pas match, et effectivement, on est sur les prémices de la Coupe de France. À ce moment-là, à aucun moment, aucun d'entre eux ne s'imagine que le destin est en train de se signer. Hein.
1927 habitants à Campagne-les-Hédins, connu pour son église Saint-Marin qui est très belle.
Voilà.
Je vous ferai un petit tour précisons de choses.
Que Calais reste la ville la plus peuplée du département. Voilà.
D'accord. Et peut-être dire aussi sur le groupe en lui-même, même si un groupe commence doucement à naître, au début, c'est pas si évident que ça parce qu'il y a un peu des anciens, il y en a qui arrivent des nouveaux qui arrivent de Dunkerque. Donc il va falloir que l'entraîneur, il a aussi un job qu'il va bien faire de souder un peu tout ce petit monde, et ça va se faire aussi au fur et à mesure des victoires.
Il va un peu décider d'une mission, et on va le voir, il est très habité, hein, ce personnage de Ladislas Lozano, et effectivement c'est taillé pour lui parce que il se donne un peu ce père protecteur et en même temps père fouettard, ce qui je pense était nécessaire pour justement, comme tu le dis, un effectif un peu rapiécé en fait au départ.
Il était un peu, ouais, de temps en temps il gueule, hein,
ouais, moi c'est quelqu'un que j'avais vu en interview, enfin en 2000, je l'aimais pas trop Lozano, et en rebossant un peu sur le sujet, je le trouvais plutôt
après il est dur à aimer, hein.
Mais non, enfin là ça me fait rire, tu parlais des joueurs de Calais et de Dunkerque, enfin la seule chose qu'ils ont trouvé pour aller mieux, c'est oh bah tiens, ça serait bien si on buvait un coup. Voilà.
Et du coup ils ont buvé, c'est pas faux, hein. Bah, ouais.
Tu sais les vieilles formules, elles fonctionnent toujours.
Allez, une petite Jupiler et sympa.
Ouais, carrément.
En tout cas là l'équipe va enchaîner les victoires plus ou moins faciles pour atteindre les 32e. Donc on a une petite victoire contre Saint-Nicolas-les-Arras,
4724 habitants, connu parce que Camille Corot y a peint le moulin de Saint-Nicolas-les-Arras qui est au musée d'Orsay d'ailleurs.
Très bien.
Du coup, en plus des extraits, on va vous mettre les œuvres du
site. J'ai vraiment une stat sur chaque petit village.
Olivier, c'est l'audio guide du musée d'Orsay. Voilà. Magnifique.
Alors,
merci en tout cas.
Marly-les-Valenciennes.
Alors, figurez-vous que le rappeur Us l'Enfoiré a vécu à Marly-les-Valenciennes.
C'est un match pas facile, je crois.
Il a racheté un club. Les deux matchs sont pas faciles parce qu'ils battent Marly-les-Valenciennes au 6e tour. Seulement 2-1. Alors, Marly-les-Valenciennes, c'est un club en dessous. C'est en CFA 2. Ils sont en CFA, Calais, on le rappelle. Ils le battent seulement que 2-1. Alors après, ils sont peut-être allés à la patinoire. Il y a une super patinoire à Marly-les-Valenciennes.
Et il va y avoir un match encore plus dur contre peu la bête noire de Calais, apparemment. Oui. C'est le 7e tour, oui. Donc Chloé, c'est contre eux.
Béthune.
Exactement.
Les bêtes.
Les bêtes de Béthune.
Et il flotte à mort. Il souffre beaucoup en première mi-temps. Et ils vont finir quand même par gagner 1-0, je crois, si je ne m'abuse.
Ouais. Et à la maison, en plus.
À la maison, oui. Michael Gérard dira même que c'était un hold-up et que c'était peut-être le seul match qui méritait de perdre.
Mais on se dit que tout doucement, il y a un état d'esprit qui se forme, un groupe qui se forme. Pourtant, tout n'est pas parfait parce que même la saison régulière est un peu difficile et l'harmonie collective n'est pas encore tout à fait au rendez-vous.
Oui, justement, Olivier l'a dit, hein, ce qui va un peu les ressouder, c'est une sorte de grande gueulante, une grande explication, comme ils ont pu le dire. Cette grande explication, c'était tout simplement reprocher à certains joueurs de quitter l'entraînement sans avoir à...
Sans discuter,
sans avoir à lier des amitiés.
Mais après, c'était des mecs qui vivaient plus loin, donc il y avait 1-2 heures de route.
Exactement,
pour rentrer chez eux.
Donc Dunkerque, Calais, pour l'avoir fait, c'est à peu près 1 heure, hein, c'est 45 minutes en voiture. Quand il y a de la circulation, on est bien sur une petite heure.
Ah, pour toi, c'est beaucoup plus long, mais comme tu roules pas à plus de 30,
Tu sais, avec mes lunettes de double foyer et mon permis de 1920, je n'ai pas le droit.
Il a plus de permis, hein, il conduit une petite voiture sans permis comme ça, donc ça prend du temps, effectivement.
Exactement. Et donc, oui, après une bonne explication, finalement...
On boit des petits verres.
Certains restent 10 minutes, d'autres 1h30. Donc voilà, après 4-5 canons, finalement, les amitiés commencent à se nouer. Et à ce moment-là...
C'est pareil pour l'équipe de PO. On se détestait au début, mais une fois qu'on a picolé, on s'aime. Bon, alors en attendant, il reste encore des matchs à jouer. Une victoire importante, c'est au 8e tour, 2-0. Non, 4-0, pardon, Costaud contre Dunkerque.
Et oui, c'est un peu l'ennemi juré, c'est l'ennemi de la région. Et
c'est le derby.
Tous les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Dunkerque.
Et c'est ça.
Et c'est Dutitre qui met un doublé en 10 minutes, alors qu'il vient justement de Dunkerque.
Et alors, Chloé, je ne sais pas si tu sais, mais Béthune-Dunkerque, c'est deux matchs très très important qui se joue à domicile. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui vient voir. Et quand il y a beaucoup de monde qui vient, eh ben, ça fait quoi ?
Ça fait de la money-money.
Ça fait de la money-money.
En fait,
les caisses se remplissent. Et tant mieux pour Calais, parce que bah, niveau compta, niveau finance, c'est pas génial.
Ils vont pouvoir refaire la pelouse avec ça.
Exactement.
Hey, c'est l'annexe qui va en profiter.
C'est l'annexe qui va en profiter.
1,7 million de francs de dette, quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Et Ladislas dira, en deux heures de jeu, 20 ans de déficit ont été rayés. C'est déjà pas mal. Une belle mission accomplie.
Non, mais ça c'est aussi beau, la Coupe de France, pour ça. Même toi, Chloé, qui n'aime pas le foot, tu vas voir que tu vas adorer. En général,
je ne
montre pas de doigts comme ça, les gens.
Non, je ne montrais pas Chloé, je montrais le petit, le rat là, qui est juste derrière.
Oh,
c'est qu'en général, les clubs plus huppés qui viennent voir les plus petits laissent la recette à 100% au club.
La fameuse voilà. Théorie du ruissellement.
Et bien, ça marche, vous voyez. Voilà. Pourquoi vous emmerder à la fin. Et donc Calais, après avoir battu Dunkerque, est qualifié pour les 32e.
Et c'est leur objectif.
Et c'était leur objectif.
Parce que quand t'es un club amateur, l'objectif c'est d'aller en 32e pour affronter un pro.
Mais oui, et affronter un pro, c'est finalement avoir un peu d'argent, puisque finalement, comme l'explique Olivier, la recette est laissée un peu de coutume. Attention, ce n'est pas un règlement, hein, c'est une coutume.
Oui, c'est une coutume, effectivement. Parfois,
et tu peux être un gros radasse.
C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec l'OM, avec Lyon aussi.
Ouais. Et du coup, ça se retrouve face à une équipe de D2.
Exactement.
Lille,
ouais, entraîné par Vahid Halilhodžić.
Pardon.
J'ai pas ce qui s'est passé.
Lille et donc Lille à l'époque, ils sont plutôt pas mal en D2.
Oui, ils ont sorti Calais en fait l'année précédente.
Ouais.
Donc je pense que déjà il y a un petit peu de pression quand tu te retrouves encore face à eux. Et ils ont des joueurs comme Benoît Chiroux. Le fameux Pascal Sigan ou Christophe Landrin.
Pascal Sigan qui du coup n'a jamais froid aux mains. Et
ils sont leaders de D2
ils ont 12 points d'avance, et d'ailleurs on montre en Ligue 1, et ça va être en plus Lille qui va, qui va petit à petit prendre une place forte dans le football français. Depuis, ils ont été deux fois champions de France quand même.
Exactement.
C'est quand même un énorme club. Et on disait Vahid Halilhodžić, que tu ne connais pas, Chloé, mais qui est, qui est un entraîneur assez connu.
Ouais, pour être une terreur en fait sur le banc. Si Lozano est redouté, Vahid Halilhodžić
qui est connu pour une anecdote, c'est qu'à Rennes, il a entraîné Rennes et il a mis la misère à deux joueurs qu'il avait surpris en train de jouer à la console très tard le soir, réveillère, je ne sais plus qui, et qui avait du coup complètement pas joué, qui n'était même pas sur la feuille de match le lendemain.
Il a une réputation de tyran, mais là, qu'est-ce qui se passe ? Et il a la grippe.
Ah oui, il a grippé. On se dit quand même que ça a un peu joué.
Et oui, ça influence, bien sûr.
Calais, les joueurs, eux, ils sont à fond, ils disent qu'ils se mettent minables sur le terrain, enfin qu'ils donnent tout, et ils vont aller jusqu'au tir au but. Et ils vont gagner, et je trouve que c'est assez intéressant parce que les joueurs qui témoignent, ils disent c'est pas de la chance les tirs au but, on se prépare aux tirs au but, c'est le résultat d'un travail acharné. Alors on n'est pas forcément d'accord.
Oui, mais bon. En tout cas, on y met beaucoup de je dirais presque du mystique en fait dans les tirs au but.
C'est vrai.
Parce qu'il y a beaucoup de superstitions à travers, je sais pas, les habitudes, les gris-gris, les joueurs de foot sont très superstitieux. Et les tirs au but, il y a énormément de stress, hein, comme tout le monde a pu le remarquer. Et
c'est un peu la dernière chance, donc fatalement.
C'est la dernière chance.
Plus sous les feux des projecteurs.
On a c'est horrible,
encore plus l'impression que c'est le pile ou face qui va décider de ton destin. Voilà.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a quand même une part de chance, justement par ce stress, qui n'est pas le cas dans un penalty en match où c'est souvent le même tireur qui est désigné. Et là, le gardien peut travailler. Là, il peut travailler aussi sur le joueur. Mais le joueur, il y a un tel niveau de stress supplémentaire que ça
après,
joue beaucoup mental.
Après, t'entends parfois des gens qui disent, on a vu le gardien, il part. Majoritairement à droite, etc. Enfin bon, bref.
Bon, c'est une conversation qui ne se finira jamais.
En tout cas,
autant l'arrêter.
Victoire. L'équipe va confirmer derrière en 16e en battant une plus petite équipe de CFA2.
Langon-Castet.
J'ai Olivier,
rien sur Langon-Castet, je crois.
Tu te fiches de moi ?
Attends, si, j'ai un truc.
Il a rien.
Langon-Castet, son festival. Alors, ça, c'est le CAD. Langon-Castet, il faut savoir que c'est en Nouvelle-Aquitaine. Il y a 7314 habitants et c'est un port qui a rivalisé pendant des années avec celui de Bordeaux sur la Garonne. Elle est très connue, Langon-Castet, pour l'église Saint-Gervais-Saint-Protais. Mais ça, je parle de Langon, parce que Langon-Castet, c'est une réunion des deux villes.
C'est comme Évian au nom Gaillard, les réunions de trois villes.
Exactement, Castet, il n'y a que 2424 habitants à Castet.
En tout cas,
Jean Castex.
On sent que, enfin, en tout cas, l'équipe est mature et elle est prête à poursuivre la compétition. Elle, enfin voilà, contre Lille, c'était un petit exploit déjà, mais elle tient son rang ensuite.
Il y a une anecdote sur Gal. Je voulais revenir sur Lille.
Sur les matures.
Il y a quand même Vahid Halilhodžić, juste pour ça prendre une seconde, qui voit Lozano dans le couloir pour un stage machin,
ah oui, merci
et qui voit
dire.
Lozano et qui dit c'est Vahid là, Lozano pas gagné. Ouais, il parle un peu comme ça. Voilà, c'est comme ça.
Très bien. Et les choses vont commencer à prendre un peu plus d'ampleur avec les huitièmes de finale contre donc Cannes, qui est aussi de D2. Alors on va pas aller jouer
alors Cannes,
à Calais.
C'est surtout un énorme club de formation, formateur, pardon.
Zizou. Excuse.
Et on, évidemment notre Zizou national y a été entraîné et formé par Luis Fernandez.
En tout cas, le terrain de Calais n'est pas homologué pour accueillir une équipe de D2.
Oui. Alors et donc, une question pour aller... ça, parce qu'ils ont eu, pardon, je t'interromps, mais ils ont eu Lille juste avant. Et bah, ça devait... sont aussi en D2.
Ça devait peut-être pas être à Lille. Ne pas être à Calais.
Si, c'était à Calais. Les deux matchs d'avant, ils sont à Calais. C'est juste que à partir du 8e, je sais pas pourquoi. Oui. Je pense qu'aussi avec les caméras, le plus de gens, le machin, le truc, ils estiment que c'est voilà. Je
alors,
sais pas pourquoi
pour
c'est 8e.
Pour avoir vu le stade de Julien Denis de près, je comprends. Parce que quand tu commences à accueillir énormément de monde, effectivement, c'est presque une question de sécurité. De
et encore, débattre. Avant, ils voulaient le faire jouer sur l'annexe. Alors je te raconte pas. Hein.
Et donc, on va à Boulogne-sur-Mer.
Oui, donc les voisins. Là aussi, on est sur presque le derby naturel. Et c'est le voisin qui accueille l'ennemi juré, qui accueille en fait ce match.
Et Lozano, il n'est pas rassuré à
ce moment-là. C'est pas forcément une terre d'accueil.
Non, mais t'as raison, Chloé, de dire que c'est le match où Lozano, visiblement, il stresse beaucoup, encore plus qu'avant et après. Cannes, il n'est pas rassuré.
Oui, parce que ça a l'air d'être un homme détendu le reste du temps.
C'est vrai. Il a raison d'ailleurs, parce que ça commence pas très bien dans le match.
On l'appelle Gandhi.
Puisque c'est
oui, Cannes. Cannes qui ouvre le score.
Exactement.
Tout à fait.
Mais Calais égalise presque immédiatement.
Presque tout de suite par Hogard, que j'aime beaucoup, un milieu de terrain que j'aime beaucoup. Calaisien d'ailleurs.
Et j'ai un doute, c'est sur ce match-là qu'il y a l'anecdote, je crois, du président du club qui sort tout de suite pour appeler au téléphone.
En fait, c'est Courbis, Roland Courbis, qui est un entraîneur très connu aussi, parce qu'il est beaucoup présent dans les médias, qui a beaucoup de potes à Cannes et qui sort au téléphone en disant ouais, bon, c'est gagné, Cannes vient d'ouvrir le score. Il revient sur le terrain 15 secondes après et il y a un partout.
Et là encore, il va falloir faire la différence au pénalty. Et je crois qu'il en sort au moins deux.
Cédric Schill en sort deux. Ouais.
Cédric Schill qui fait une campagne mémorable. Et c'est assez beau parce qu'ils ont chacun leur heure de gloire sur chaque match. Là, c'est Schill. Avant, c'était Michael Gérard, le fameux magasinier qui fait un triplé. Enfin, je veux dire, c'est chaque joueur peut se mettre en valeur, mais ça reste toujours dans le collectif.
Et là, je pense que l'équipe change un peu de catégorie parce que médiatiquement, forcément, ça devient un exploit.
On arrive en quart en plus.
On arrive en quart. Ne jamais oublier dans toute cette histoire que Calais est en 4e division. Donc c'est là pour le coup, ça commence à être vraiment le petit poussé qui commence à bousculer un peu les règles.
Les plus grands. Donc le prochain défi, ça va être Strasbourg pour les quarts. Ouais. Ça va être vraiment du sérieux. Ouais. Mais avant de vous en parler, je vous propose d'écouter le speaker en tout début de match. Et puis on va revenir et vous raconter un peu mieux tout ça juste après.
Nous allons ouvrir les hostilités dans moins de 5 minutes avec le coup d'envoi des amateurs de Calais face à l'équipe de Strasbourg, une équipe de première division dans le stade assez magique de Félix Bollaert à Lens, le voisin lensois. Et puis à 20h, vous aurez droit à un autre quart de finale de Coupe de France sur Eurosport. On va découvrir le programme des réjouissances avec tout d'abord ce premier quart de finale. Et dans la foulée, à 20h, vous retrouverez Alain Baudron, vous retrouverez Didier Notto en direct du stade Lescure pour Bordeaux-Nîmes. Et puis demain, 17h, Lyon-Monaco, ce sera sur TF1. Et à 20h30, le derby de la Bretagne entre Nantes et Rennes. Mes places au Petit Pousset face à l'ogre strasbourgeois. Le Petit Pousset, c'est Calais, une équipe d'amateurs qui est en train de vivre une belle histoire d'amour après avoir fait tomber Lille et Cannes, deux équipes de deuxième division. Ce soir, c'est un véritable Everest qui est proposé à l'équipe calaisienne, Philippe.
Mais c'est leur jour de gloire, ce sont des héros, tout le monde le dit. Et attention, quand même, la marche peut être importante pour Strasbourg. Attention de ne pas tomber dans le piège. Lozano dit simplement que son équipe, sur un jour, sur un match, est capable de tout.
On verra ce que ça va donner dans une ambiance de feu, même s'il fait froid aujourd'hui.
Alors, effectivement, ouais. Personne ne pense que Calais peut battre Strasbourg. Presque personne. Mais presque eux, ils y croient un peu.
Et ils y croient fort. Lozano, notamment, commence à utiliser sa personnalité, donc sa force, pour pouvoir un peu canaliser, entre guillemets, la tension médiatique et essayer d'épargner un peu ses joueurs. Parce que finalement, l'une des clés de leur ascension, je pense beaucoup, qui est liée en fait à Lozano, qui a servi de fusible à bien des fois.
Mais en fait, c'est pas le seul, parce qu'il y a quand même 20 000 Calaisiens qui font le déplacement jusque-là.
Ah oui. Alors là, pour le coup, effectivement, aussi la ferveur et le.
Il le dit dans l'extrême, et on est à Lens, donc on est.
Et tu vois, je pense que là, Boulogne,
35 000 personnes.
Boulogne, le stade de Boulogne est devenu trop petit, et donc on remonte d'un cran à Lens.
Le stade Bollaert, voilà, donc le stade Bollaert étant connu aussi même pour être une des plus grandes ambiances. Localement, je pense qu'ils ont eu aussi un amour local, un soutien, un peu de confraternité par rapport à.
Bien sûr, en général, la rivalité d'un temps est quand même caché, enfin mis de côté pour le territoire et pour la région. À Calais, c'est la folie d'ailleurs. Ils font une boutique improvisée. Ils font une boutique improvisée parce qu'en fait, ils font pas de merchandising du
ils
tout.
Ils n'avaient pas d'écharpe et tout.
C'est génial. Et du coup, en trois jours, ils montent un magasin avec trois bouts de bois et machin. C'est génial.
Des petites dames en train de tricoter.
C'est fou. Il y a ça dans un. Enfin bref, du coup, la pression est à son comble. Surtout que Strasbourg, c'est pas des peintres en face.
Non.
Bah non, c'est des footballeurs.
Ah oui, c'est vrai. Voilà, ce sont des footballeurs. Non,
mais les peintres sont du côté de.
Exactement. Ouais. Et comment ça va se passer sur le terrain? On sent qu'il y a un peu de pression quand même.
Il y a un peu de pression parce que même si 20 000 Calaisiens font le déplacement, bah finalement, ça met aussi un petit peu la pression sur les épaules des Calaisiens parce que beaucoup de gens qui se déplacent pour soi, c'est un peu compliqué d'assumer ça dans sa tête.
Mais comment tu vis, toi? Parce que beaucoup de gens se déplacent pour toi, tous les jours.
Moi, j'ai un coach personnel. Ouais. Voilà. Il s'appelle Ladislas Lozano.
Non, mais surtout que Strasbourg, c'est quand même ils vont finir 9e cette année-là de Ligue 1. Club qui est très habitué à l'élite. Il y a des super joueurs, notamment Habib Bey qui est maintenant consultant et entraîneur du Red Star. Strasbourg est persuadé de toute façon qu'ils doivent gagner. S'ils ne gagnent pas, c'est l'apocalypse.
C'est la ils les prennent de haut.
Ils les prennent un peu de haut. Et Claude Leroy, l'entraîneur de Strasbourg, parie avec Jacques Vendroux, un journaliste calaisien, journaliste qui, lui, calaisien, est plutôt mais calaisien, qu'il parie avec le fils de Vendroux. Je te parie 100 balles qu'on va gagner. De toute façon, ils n'ont pas le niveau.
Ouais. Alors, 100 francs aujourd'hui, ça fait combien?
Alors, Younes, toi, tu veux pas jouer parce que tu parles encore en ancien franc.
15 euros.
15, c'est vraiment pas énorme.
Bon, avec l'inflation.
C'est avec le fils de Vendroux, peut-être que c'était l'argent de poche.
Quand c'était ça, à
l'époque. Le change était 6,55. Donc on est pas loin de 15 euros. Oui, c'est ça. Lozano, lui, il y va de sa provocation. Il dit Strasbourg devra s'employer grandement à nous battre, car mentalement, on est plus fort qu'eux.
Et pourtant, quand ça va commencer le match, on va plutôt se dire que. On va se dire au début que ça part mal, quoi, que c'est fini pour Calais, parce que Strasbourg va marquer, je crois, à la sixième minute.
C'est Chouafny.
Et Chouafny, Olivier, très joli.
Olivier Chouafny qui.
Là, tu te dis, on va se prendre un 10-0.
Quand l'équipe pro marque tout. En fait, ce qui fait le jeu des équipes amateurs, c'est que l'équipe pro stresse un peu de ne pas marquer, de ne pas marquer, et puis sur un vieux compte pourri, il y a les amateurs avec plein de confiance. Et là, c'est l'inverse. C'est les pros qui marquent tout de suite. On se dit qu'effectivement, ça va être terrible pour les Calaisiens.
Et pourtant, ils ont repéré que le gardien de Strasbourg, il avait un petit problème de prise de balle. Et en fait, sur les deux buts que vont finalement marquer Calais, il va y avoir un peu des erreurs à chaque fois du gardien.
C'est le gardien qui relâche un petit peu. Donc, il est pris à défaut. Et en fait, effectivement, ils ont aussi un sens de l'observation. Et ça veut dire surtout que ce sens de l'observation...
Ils ont joué à Où est Charlie pendant tout l'entraînement.
Et donc, ils l'ont repéré assez vite, le Charlie. Et le Charlie, c'était le gardien de Strasbourg. Et effectivement, il relâchait et ils en ont profité.
Mais c'est aussi ça un peu le pouvoir de Lozano dans un sens, c'est qu'il voit déjà les qualités de ses joueurs, mais il voit aussi les défauts adverses et il va vraiment se focaliser là-dessus.
Complètement.
Et on sent vraiment dans chaque match à chaque
complètement,
fois
parce que
ils savent quelle est la faille en fait.
C'est l'exploit d'une équipe, mais franchement on peut aussi ils peuvent le remercier en fait, Lozano, parce que c'est aussi l'exploit d'un entraîneur.
Et donc 2-1, c'est l'exploit. C'est la folie.
Ah bah là, on est content. Ils sont dans la légende.
C'est incroyable parce que ça n'arrivait pas forcément si. Ça arrive un peu plus maintenant, mais.
On l'a pas dit, mais Strasbourg est en D1 à l'époque.
Ils sont en D1, bien sûr. Ils ont des joueurs assez très forts. Ils finissent 9e cette année-là. donc devant Nantes par exemple, et surtout Strasbourg s'était mis une pression parce que en général, comme ils savaient qu'ils avaient plus grand chose à jouer en championnat, la Coupe de France devient une priorité parce que c'est plus facile pour la Coupe d'Europe.
Bah, c'est une prime à l'Europe effectivement, donc là on la joue à fond.
Donc là je crois qu'on ne se rend pas assez compte de
l'écart de niveau,
de l'écart de niveau et de l'exploit déjà, mais qu'avait fait déjà contre Lille, hein. Mais là c'est encore plus fort quoi.
En tout cas, oui, l'événement est historique, d'autant que jamais un club amateur n'avait réussi à atteindre les demi-finales de la Coupe de France. C'est fait. Mais avant de vous raconter la suite, c'est l'heure de la pause musicale. On a écouté Younes.
Un bon vieux gospel.
Ah, bon, bah,
Sister, We No No Care, et c'est Life is a Ball Game, et c'est un peu la métaphore de la vie. Ça a été utilisé et chanté pour un match de baseball. et c'est pour parler en fait de la Bible à travers tout ça, donc comme beaucoup de gospel. Voilà.
Tout de suite, on ne dit pas le gospel, on dit l'enfant à froid.
Ah. Alors.
Elle est magnifique.
Mais elle est très belle.
On enchaîne.
On enchaîne, c'est incroyable. À la surprise générale, Calais a battu Strasbourg. Oui. On le redit, c'est un fucking exploit.
Prenez ça les Allemands. Non, je rigole.
Non, alors l'Alsace, ça n'a rien à voir avec l'Allemagne.
Ah oui,
ah bah se fâcher.
Ça a été annexé. L'oublie pas, je suis alsacienne un peu.
Et ils vont en demi-finale de la Coupe de France.
Yeah ouais.
Là, c'est la liesse, hein. C'est la victoire totale. Les rues sont inondées.
C'est complètement historique en fait. Décrocher en fait un billet pour une 4e division, arriver en demi-finale de Coupe de France, ça n'est jamais arrivé et je pense que ça n'arrivera plus jamais. Voilà. Alors, je suis pessimiste, oui.
Mais on verra que si en fait, en finale, non, en demi, je ne sais pas, mais il y a déjà eu d'autres exploits depuis.
Oui.
C'est du national, mais on a failli avoir un club national il y a 2 ans qui a failli gagner la Coupe.
Parle de 4e division.
Alors, on le redit, Calais, c'est une ville très populaire, oui, avec des difficultés économiques. Le revenu moyen d'un Calaisien est inférieur à l'époque de 23% à la moyenne nationale. Donc, la vie n'est pas toujours facile. Et là, globalement, après la victoire face à Strasbourg, tout le monde est dans la rue. C'est la teuf, comme on aime. On aurait voulu y être.
Les raisons de se réjouir ne sont pas nombreuses. C'est quand même des gens très joyeux, des gens qui ont envie, qui ont la blague facile.
Ils ont le soleil dans le cœur.
Et attention, il y a énormément de soleil à Calais.
Non, ils ont la patate, mais c'est vrai que...
Comme le champ de patates du début.
On n'imagine pas cet exploit. On parle quand même d'un club qui est en demi-finale de Coupe de France, alors qu'ils ont l'annexe.
Je crois qu'on l'a pas assez.
Alors là, à partir de... J'attire votre attention sur le fait qu'il va y avoir un petit fil rouge Lynn Renault, car à partir de ce moment-là, Lynn Renault envoie souvent ses mots d'amour à Calais. Je pense, je sais pas, des photos un petit peu, des nudes. Je sais pas s'il y en soit des nudes, mais en tout cas, Lynn Renault c'est complètement... Ça reviendra un petit peu de temps en temps.
Bon, en tout cas, le bus des joueurs, quand ils reviennent de Lens, ils sont acclamés par
un volcan de popularité. Ouais.
Voilà, c'est vraiment la population est en ébullition et on apprend que le futur adversaire, celui de la demi-finale, ce sera Bordeaux.
Qui a battu Monaco, je crois.
Je
te laisse dire ça et puis dire à l'éditeur.
Je vous attends de pied ferme.
On te laisse te débrouiller et je vous propose d'écouter l'attaquant Michaël Girard et le coach de Calais nous raconter un peu l'esprit avant cette demi-finale.
Demain, ça va pas rigoler. Ça sera Bordeaux, ça sera pas Strasbourg. Et puis, mais je pense que demain, ça va aller. On va avoir la rage. Et puis le résultat, on le fera.
Mentalement, on sera prêt. Après, le match, il sera ce qu'il sera. L'équipe de Bordeaux est championne de France en titre. Il faut quand même pas se voiler la face. Hein. Mais les 40 000 personnes qui vont venir au match vont pas être déçues. Et Bordeaux devra s'employer.
Bordeaux, donc champion de France.
Bordeaux, c'est un très mauvais souvenir pour moi, supporter marseillais. C'est le moment où j'ai commencé à suivre le foot. Et Bordeaux, champion de France, juste devant l'OM de Courbis, justement.
Et oui, avec une petite embrouille, peut-être
Non, mais disons que le match Bordeaux-Paris, il fallait que les deux gagnent. Et que Paris a un peu laissé, parce que c'était les rivaux marseillais.
Oui, paraît-il.
Paris jouait contre Bordeaux la dernière journée.
Ce n'est pas prouvé.
Alors...
Et ce type qui sort de nulle part pour Marc. Enfin bref.
C'est une autre histoire. Avant de vous parler de Bordeaux, on n'en a pas beaucoup parlé. Peut-être quelques mots sur Ladislas Lozano, qui est l'un des artisans de cette incroyable épopée. Est-ce que tu peux nous en dire
Il est né en Espagne, à Valermoso.
De la Fuente.
En
1952, voilà. Il a 48 ans à l'époque de l'exploit de Calais. Donc voilà, la famille Lozano, comme beaucoup d'immigrés espagnols, arrive en région parisienne et lui grandit dans un milieu populaire plutôt modeste. Il signe donc dans un club de foot à Viry-Châtillon. Et puis à Paris, au Paris Joinville, voilà.
Il va être même sélectionné en équipe de France junior.
Exactement.
Ouais, donc il a un niveau de foot.
Il a un bon niveau de foot et donc voilà, mais on.
Il pourra pas l'honorer parce qu'il est espagnol en fait. Il a pas la nationalité française, je suppose.
Et je ne sais pas en fait particulièrement si c'est à cause de ça, mais en tout cas oui, il y a de fortes chances.
Parce qu'il engueulait ses sélectionneurs déjà à l'époque.
en tous les cas, oui, tout à fait. Il a fait 2 saisons au Racing Santander, donc un club très connu en Espagne, qui à l'époque est en 2e division. En 1970, il est encore un petit jeune, voilà, il est né en 52. En 92, il entraîne Saint-Omer et il mène son équipe jusqu'en 16e de finale de la Coupe de France. Donc déjà, c'est déjà quelqu'un qui a une sorte de comment on appelle ça, un mojo,
un niaque.
Jack, voilà, exactement, un mojo. Et ben, il a un truc avec la Coupe de France. Parce que 16e de finale, c'est déjà un exploit, en fait.
Ouais, et c'est il va dire, hein, quand je gueule, on entendrait une mouche voler.
Ça me terrifie.
il faisait un peu flipper les gens, quand même, non enfin, c'est, un peu. Il marchait un peu à la terreur, non, ce monsieur.
C'est un peu ça, voilà. Et donc, et c'est qu'en 95, donc, il arrive.
C'est pas très juste, hein. Quand je gueule, j'entends une mouche voler, ça veut dire qu'on l'entend pas quand il gueule. Quand je gueule, après
on entend une mouche voler. Ah,
oui. Lozano, il faudrait qu'il corrige un petit peu ça.
Il est. Bah, tu lui diras.
Non.
Il est actuellement adjoint à la mairie de Calais. Voilà.
Ah, donc, incroyable.
Tout à fait.
Bon, bah, très bien. Eh bien, écoutez, assez parlé de Lozano. Présentez-moi plutôt le prochain adversaire de Calais, les Girondins de Bordeaux. Ouais.
Bordeaux, on est en 99-2000, donc on est en 2000 à ce moment-là. On a notamment Christophe Dugarry, qui est champion du monde.
Que tu connais, Christophe Dugarry, Chloé. Dugarry, Wiltord peut-être. Sinon, Wiltord, tu connais.
Dugarry, tu connais.
Oui, oui, non, mais j'étais là dans les autres émissions.
Et en fait, le foot, donc ça joue à 11 contre 11. Et,
alors, mais les ballons, il est comme ça.
Non, et le rond, pas le ovale.
Le rond, oui. Le rond. D'accord. Ouais. Mais le rond gros, le rond petit.
Non mais attendez, Bordeaux, on l'a noté.
Ils sont champions de France.
Ils sont champions de France devant Marseille.
Ils ont un champion du monde. Ils ont des joueurs qui sont sélectionnés en équipe de France.
Qui vont gagner, l'été prochain l'Euro. Parce qu'on va faire le doublé Coupe du Monde Euro 2000. Donc ils ont Ulrich Ramé qui sera deuxième ou troisième gardien, je ne sais plus.
Johan Mikou, Sylvain Wiltord.
Et Sylvain Wiltord qui ne jouera pas. Sylvain Wiltord, c'est peut-être la seule bonne nouvelle. Il ne joue pas contre Calais. Ils ont un attaquant que Mickaël connaît bien, qu'il a joué à Auxerre. Oui. L'attaquant, pas Mickaël, c'est Lilian Lasland,
voilà, tout à fait.
Donc, alors, ils viennent de jouer avec des champions. Non, mais c'est pour dire que c'est un énorme. C'est peut-être à ce moment-là le ou l'un des deux meilleurs clubs de France.
Ouais.
En tout cas, ils viennent d'enchaîner une série de 4 victoires consécutives en championnat. Bordeaux, c'est un peu plus compliqué en Coupe de France. Ils ont un peu galéré contre Nîmes.
C'est le syndrome des professionnels qu'on expliquait tout à l'heure. Hein. C'est après jouer Manchester cette année, plus la Fiorentina, plus dans le championnat, en fait, essayer d'être toujours au top. Il y a toujours un petit sas de décompression et une compétition comme la Coupe de France face à un adversaire qui est légitimement moins fort. On est peut-être un peu en dilettante pour certains professionnels.
À Calais, on est en feu, hein, on ne parle plus que de ça. C'est marrant parce que maintenant, quand il y a des matchs au stade Julien Denis, tout le monde, le stade est plein, c'est vraiment footmania à Calais, quoi. Tout le monde aime le foot.
Complètement,
foot
ouais.
Footmania à Calais, le nouveau roman de Sarah.
Petite correction, la qualification de Bordeaux, elle est directement face à Nîmes et non pas face à Monaco. Tout à l'heure, j'ai dit.
Oui, c'est écrit dans les notes. Oui, pas de soucis, Yonès.
Du coup, pour la demi-finale, il y a presque la moitié de Calais qui veut se déplacer.
Et oui.
Il n'y avait plus beaucoup de monde dans les rues.
Il n'y a plus beaucoup d'autocars.
C'est le moment d'aller
cambrioler.
Toi aussi,
t'as eu cette idée.
Ah bah bravo. Bravo.
Et, non, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer.
Il faut affréter 600 bus et en fait ils galèrent à trouver 600 bus. Ils vont en chercher dans toute la région pour amener tous les supporters voir le match. Et avant le match, l'entraîneur bordelais, Élie Boop, on sent qu'il fait preuve d'une certaine prudence. Hein. Il a vu Strasbourg quand même se faire éliminer et il dit « Nous sommes à 90 minutes d'une finale, il ne faut pas nous laisser aller. Nous prêterons à Calais la même attention qu'à Manchester United. »
Alors, tu l'as fait de façon beaucoup plus énergique et beaucoup moins monotone que ce qu'il parle en vrai. oui.
Mais même plutôt Jérôme Bonicelle...
Limite excité.
Jérôme Bonicelle qui disait « Oui, je préfère me faire siffler que de faire un peu comme les Strasbourgeois qui ont pris de haut. Ouais. Alors exactement, quand on voit les Strasbourgeois qui marquent face à Calais, qui se la jouent pépère, et puis qui regarderont la finale à la maison.
Ouais, exactement. Mais ils ne savent pas que...
Ils s'attendent, voilà, ils ne prennent pas les Calaisiens comme les autres équipes ont pu les prendre.
Oui, il y a un... Bon,
en fait, j'ai l'impression que surtout Bonicelle, il fait un peu une déclaration de guerre en disant de toute façon, on va se qualifier, mais ça sera sale.
Bonicelle, arrière-droit de Bordeaux.
De Bordeaux, merci Olivier. Et en fait, l'idée, c'était plutôt de critiquer Strasbourg en disant contre un club comme Calais, on ne joue pas, on gagne en fait. Et il reprochait à Strasbourg d'avoir un peu joué facile, alors que lui il était bien déterminé à gagner et donc d'être un peu rude.
Mais c'est quand même une marque de respect de la malgré même si c'est une déclaration de guerre. Chloé a raison.
Tout à fait.
Que quand même on prend au sérieux.
J'ai raison, t'as entendu.
j'ai pas dit qu'elle avait tort et surtout j'ai pas dit que c'était pas une marque de respect.
Ah écoutez, ça suffit, je coupe tout.
Donnez-nous de l'alcool, ça va bien aller.
Taisez-vous.
Quelques mots sur ce match et sur la première mi-temps. Pas facile, de la pluie, c'est pas terrible et mais
tempête.
Il y a de la pluie,
il y a un mauvais temps quoi.
très donc, mauvais temps.
C'est pas terrible pour jouer, on a froid.
Il y a de la gadoue.
Non, mais en vrai, on sent que les Girondins sont un peu mis en difficulté et qu'il y a peut-être un mini espace quand même sur cette première mi-temps, même s'il n'y a pas de but.
Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur la tactique parce qu'on oui. essaye de vulgariser au maximum, mais malgré tout, il y a ce qu'on appelle un gros pressing. C'est un
jeu. Alors, le pressing.
Bah, zéro pli. C'est... Zéro pli. Jamais. Ils sont nickel. Les shorts des Calaisiens, ils sont nickel.
Oui. Ah, donc, toujours. Et puis surtout, c'est fait la veille pour le lendemain. Oui, la veille pour le lendemain, je veux dire.
Zéro pli avec de l'amidon.
Non, allez, c'est quoi le pressing?
C'est de belles chemises amidonnées.
À l'époque, surtout dans le foot français, c'est pas quelque chose qui se faisait forcément. On a vu ça beaucoup à l'étranger.
C'est une tradition hollandaise.
Encore plus dans un club amateur. C'est-à-dire que dès qu'à la perte de balle, on va tout de suite presser le joueur qui a la balle pour l'empêcher d'avoir des solutions et donc pour développer son jeu.
Moi, j'aime bien quand ça joue comme ça.
Et c'est
on ne s'emmerde pas.
C'est d'autant plus rare de le voir en amateur car c'est
un effort physique
très fatigant
qui demande un énorme effort physique. Et on ne l'a pas dit aussi, mais les joueurs de Calais travaillent énormément le physique. Ils font ce qu'on appelle du fractionné trois semaines avant pour que ça fasse son travail, que le jour J, ils puissent être au maximum de leurs conditions physiques.
Alors, c'est bien aussi d'expliquer un petit peu le fractionné, Olivier, parce que qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, c'est
de la course où tu accélères à fond.
Tu fais une énorme accélération, tu cours normalement, tu fais une énorme accélération et après tu joues sur les temps entre
horrible.
L'accélération et la trotte.
C'est vraiment c'est une véritable torture en fait.
Ah ouais,
voilà.
Je suis tout à fait
effectivement,
d'accord.
Quand tu n'as pas le physique d'un athlète comme ceux de Bordeaux, bah, c'est quand même un exploit.
En tout cas, à la mi-temps, il y a peut-être un coup à jouer. Et d'ailleurs, Dugarry, il gueule un peu là quand il sort du terrain.
Bah, Dugarry, quoi.
Il n'est pas très content de comment ça se passe.
0-0 à la mi-temps.
0-0. Écoutons le discours de Lozano à ses troupes dans le vestiaire.
Ne tombez pas dans les provocations. On n'en a rien à foutre de Bordeaux. D'accord ? Alors arrêtez d'aller les voir pour les remonter et les aider à remonter. Hein, d'accord ? Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de vous. Hein. Vous avez vu ? Ils vous ont dédaigné. Alors vous les laissez pour ce qu'ils font. Pourquoi les équipes étaient contre nous ? Elle est trop mort, putain de merde de Dieu, c'est pas possible ! Christophe et Greg, vous êtes trop morts ! Il faut ressortir, Fabrice et Greg, il faut ressortir ! On est en train de reculer, sans arrêt ! On commence pas, les gars, à paniquer. Il n'y a aucune panique à avoir. On essaye surtout de produire plus de jeux dans l'entrejeu, là où on construit le jeu. Sinon, on ne va pas pouvoir sortir la balle, on ne va pas pouvoir servir nos attaquants, et finalement, le ballon il va revenir, on va reculer, on va avoir un coup franc, on va avoir un corner, et puis finalement, il va se passer ce qui va se passer, c'est qu'on risque de prendre un but. Après, Christophe, tu vas manquer d'utilité. Là, sur le dernier coup, là, tu dois servir Michael. Hein, on va pas avoir 50 occasions comme ça. Hein.
Bah, une fois qu'on s'est fait engueuler comme ça.
Moi, je le rends plus sur le tas, je suis en PLS. Hein.
Moi, c'est mon extrait préféré parce qu'il arrive, il insulte tout le monde. Et ensuite, il dit faut pas paniquer. Hein. Surtout, faut pas paniquer.
Non, ça, en fait, c'est à double tranchant. En fait, hein. Une causerie, pareil, soit tu démontes ton équipe et ils ne ressortent plus du vestiaire avec la tête sur les épaules. Ou bah, soit, effectivement, au contraire, tu les as vraiment bougés. Là, j'ai l'impression que les joueurs aussi sur le terrain ont été vexés de la manière dont les Bordelais se sont comportés avec eux. On verra plus tard avec Christophe Dugarry, par exemple.
Après eux, Calais, mais font énormément de fautes. Enfin, faut pas non plus.
Bien sûr. Alors,
il faut toujours voulu.
Non, ce qui est pas voulu parce qu'il
y a énormément d'intensité dans ce match.
Il y a de l'intensité. Alors, on veut pas non plus en vouloir aux Bordelais, mais c'est vrai que les Calaisiens, et n'ayant pas le physique des Bordelais, ils arrivent un peu en retard en fait sur les contacts. Donc, forcément, ils arrivent à faire mal aux joueurs de Bordeaux. Et bah oui,
oh
oui.
Non, ça crée... bah, il est déjà 16h12. C'est pas possible. J'avais un contact là. Je suis arrivé en retard.
Et donc,
voilà, Lozano dans toute sa splendeur.
En tout cas, deuxième mi-temps, Calais est quand même porté par son public, puisqu'ils sont, on a dit 35 000 je crois, avoir fait le déplacement. Comme vous le disiez, ça chauffe un peu sur le terrain. Il y a des fautes, ça se bastonne presque un moment après une faute de Dugarry. En tout cas, le résultat, c'est que à la fin du temps réglementaire, il y a 0-0.
Malgré la barre transversale de Dugas, c'est pas passé loin.
C'est pas passé loin pour l'élimination. Ouais.
Mais bon, il faut que ça rentre dedans. Titre. Et on pense donc que Calais va craquer physiquement avec ses prolongations. Et pourtant. Qui pas ça.
Ça se retourne. La situation. Personne ne sait faire tourner. Pardon.
On était sur 5 titres d'affilée là. Je sais pas si vous les avez tous eus, mais.
Oui, je les note. Je note.
Ouais, ça m'a perturbé. Mais du coup, un but de Cédric Jandot, 8e minute de la prolongation. qui est quand même incroyable, 1-0.
Incroyable, non, surtout ça, le débordement de Mickaël Gérard.
Parce qu'en général, en prolongation, ce sont les professionnels qui prennent la main physiquement, qui prennent la main du match,
oui.
Parce que physiquement, ils sont au-dessus.
Oui.
Et là, c'est pas du tout le cas. Et ce but de Jean Do, comme tu dis, en plus, il est très beau parce que c'est un débordement avec une passe en retrait et une magnifique frappe enroulée. Mmh. Et ça fait 1-0 pour Calais.
Mais 8 minutes plus tard,
bah, le buteur préféré de Mickaël, Laslund, qui égalise.
Et donc là, on se dit, bon, quand même, ils vont craquer les Picalésiens.
Ils vont craquer, il y a un partout, il reste 20 minutes à jouer. On pense que c'est vraiment plié et la logique voudrait que ce soit plié. Et c'est déjà très bien parce que Calais est allé en demi-finale face aux champions de France en titre.
On pourrait presque se dire, bah voilà, c'est chouette, ils ont perdu face aux champions. Et
on pourrait dire, c'est chouette.
Et dire, c'est chouette, c'est chouette.
C'est chouette, c'est vrai.
En tout cas, incroyable rebut de Calais.
Mais oui.
Calais marque à nouveau.
En plus, c'est l'arrière droit. En plus, c'est. Non, c'est pas du tout l'arrière droit, mais en tout cas, c'est Mathieu Mihan qui est un vrai Calaisien qui va marquer. Et il y a 2-1 pour Calais à ce moment-là. Et ça aussi, c'est incroyable.
Et ensuite, Bordeaux marque presque un but. C'est
il
incroyable. Le gardien, il est dans le but avec les mains en avant et le ballon est dehors. C'est trop drôle ce moment. Vraiment, il recule avec le ballon, mais il garde le ballon bien devant pour pas qu'il passe.
Et c'est un peu comme ça que je joue, moi. C'est pour ça que ça marche pas.
Et non seulement. Calais mène 2-1, mais Calais va même mener 3-1
par Mickaël Gérard.
Eh oui, le magasinier.
Qui marque et qui clôture ce festival.
Eh oui.
3-1.
Tu l'as dit, un festival.
Mais oui, 3-1. Non, mais attendez, Calais, division 4, viennent de gagner un match par 2 buts d'écart.
Au champion de France.
Contre le champion de France bordelais. C'est quand même.
C'est magnifique. C'était un match incroyable. Juste les habitants de Calais, ils sont comme des fous, quoi. Ils vont faire la teuf.
Un rêve éveillé, effectivement. Bah là, on est complètement au-delà de l'exploit, en fait.
Bah oui.
Complètement, on s'est transcendé et puis on est dans un rêve éveillé.
Eh bien, je vous propose d'ailleurs d'écouter quel bruit ça a, la victoire et la fête.
Je crois que c'est une des plus grandes joies de ma vie.
On peut pas expliquer ce moment, c'est trop fort. Je sais pas essayer de vous mettre à notre place. Je sais pas ce qu'on vit, c'est vraiment. Tous les mots ont déjà été dits. Et là, je ne sais pas ce qu'on va trouver comme mot.
C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Et c'est mérité. Parce qu'on a. On a une foi pas possible. Quelque part, on y croyait, mais pas gagner 3-1 quand même. Il fallait être réaliste. Mais bon, je crois que. On les avait pourtant prévenus. On les avait même un peu titillés dans le journal en disant que bon, c'était du 50-50. Ils croyaient qu'on les chambrait, qu'on les respectait pas, au contraire. Nous, on les a respectés, mais eux, ils nous ont pas respectés. Et ils se sont énervés, ils sont tombés dans notre panneau. Et nous, on est restés nous-mêmes, c'est ça notre force.
On a entendu la voix de Reginald Beck à la fin, là, qui explique cette notion de respect et cette provocation. Et bon, voilà. Mais effectivement, les superlatifs ne suffisaient pas ce soir-là, tellement c'était fou, en fait.
Alors, c'est la liesse générale. Tout au long du trajet sur l'autoroute entre Lens et Calais, il y a des milliers de fans qui acclament les joueurs, qui se postent sur les ponts. Enfin, c'est vraiment la fête.
La nuit la plus longue de Calais.
Ils les attendent, alors qu'il est super tard quand ils arrivent en ville. Il y a tellement de monde. Quand c'est tellement la couille que Ladislas, il s'évanouit.
Ah oui, il est pris d'un petit malaise. Il va être hospitalisé même, pauvre. En tout cas,
c'est trop d'émotion.
On dit que jamais Calais n'a connu de tels rassemblements et que, voilà, comme on l'a dit au début, là, la rue Royale, qui est l'artère principale de la ville, évoque un fameux 12 juillet 98 et des Champs-Élysées noires de monde.
Ah oui, je sais pas ce que c'est, ça. c'est la folie. Il y a une phrase que tu as notée, Younes, dans le document qui m'a fait rire. Quelqu'un qui dit c'est nous, les petits, les footballeurs du dimanche, qui avons gagné contre Dugarry, le champion de monde, et tous les plans aux as. Et ça, j'adore. Et tu vois, c'est
je pense que
ça.
C'est le plus beau résumé de cette épopée, en fait. Voilà.
Et allez, en route pour la finale qui se joue pas à n'importe où, qui va se jouer au Stade de France. Et peut-être, avant de vous parler de la finale, un peu l'état d'esprit, parce que c'est hyper marrant, là, ils vont être invités à voir France-Slovénie au Stade de France, à visiter l'Assemblée nationale, pardon.
Les vidéos de Lynn Renault affluent sur leur téléphone.
On commence à avoir une couverture internationale, en fait, de l'événement. Ouais. On a des articles dans le Washington Post, on a des articles dans le New York Times, on a des articles en Angleterre, évidemment, puisque c'est la nation du football. Et effectivement, ils deviennent un peu les porte-parole des clubs amateurs à travers le monde et de cette aussi une autre notion de football qui n'est pas un football professionnel, un football de l'élite, un football de la performance.
Ils vont être invités à s'entraîner à Clairefontaine.
Ce qui est la première fois depuis, ce qui n'est jamais arrivé.
Ce qui n'est jamais arrivé.
Une autre équipe, ça peut pas français ce que je dis, mais que l'équipe de France.
Alors moi j'ai ma petite théorie aussi sur spoiler alerte, ouais, sur leur échec en finale. C'est peut-être aussi la casse de leur habitude en fait,
d'avoir
un peu cassé ce cocon. J'ai l'impression quand même que ça les a déjà mis dans une situation de gagnant, alors que il restait une finale à jouer.
Et puis il y a un peu de pression, enfin il y a quand même la fatigue mentale et physique de tout ce qui se passe, et quand même pour leur remonter le moral, Aimé Jacquet.
Ouais, il y a Aimé Jacquet qui vient les voir, qui leur dit
on fait la
Cédric, c'est pas Zizou.
Et oui, non, mais effectivement, Aimé Jacquet est devenu très célèbre après la Coupe du Monde 98.
Ah bon?
Parce que grâce surtout au documentaire Les Yeux dans les Bleus, et on a pu assister à cette causerie, et puis on a vu aussi quelques joueurs sortir de la douche, c'est ça?
Emmanuel.
dans la préparation, là, tu les vois voir le match France-Slovénie.
Ouais.
Et
ouais,
tu vois Cédric Chil qui rencontre Fabien Vartel.
Ouais, il s'échange l'or.
C'est trop beau. Il a des étoiles dans les yeux. Ouais. La définition d'étoile dans les yeux, c'est Cédric Chil à ce moment-là, quoi. C'est magnifique. C'est des gamins. Et effectivement, ça a changé leurs habitudes. Effectivement, d'ailleurs, ils font un ultime entraînement.
Ouais, Qatar.
Tout pourri, l'avant-veille.
Ils sont obligés d'aller boire des bières pour réparer tout ça.
C'est vraiment ça, la magie du club. C'est-à-dire qu'ils font un entraînement dégueulasse. Lozano leur dit vous êtes dégueulasse. Hein, je pense qu'il y a pire que ça.
Ouais.
Et du coup, les deux entraîneurs adjoints, ils disent, t'as été un petit peu dur, Lolo, là. Et
Lolo.
Du coup, il dit, bon, ok, on va se brûler la gueule. Et ça, c'est nos habitudes. Mais c'est ça qui marche. Enfin, pas de se brûler la gueule, mais de se retrouver, de parler, de faire la fête un petit peu pour
de
se détendre.
Oui,
tout à fait.
Exactement, voilà.
Et donc, finale contre le FC Nantes. C'est quoi le FC Nantes?
Est-ce que c'est en Bretagne? On ne sait pas.
Là, le débat est lancé.
Mais
pas ici ce soir. Pas ce débat ce soir. C'est surtout une légende du football français. C'est l'un des plus grands clubs formateurs. Et c'est une méthode, c'est une façon de jouer aussi, le FC Nantes, à l'époque. Et effectivement.
Encore à l'époque, maintenant ça n'est plus avec le nouveau président.
Cette fois champion
de France à l'époque, ils vont gagner. D'ailleurs, le FC Nantes va être champion de France l'année d'après.
Ouais, okay. Alors que là, ils sont qu'à la 12e
là,
place cette année-là.
Ils ont pas une bonne saison, mais ils ont un entraîneur qui prône le jeu à la nantaise, c'est-à-dire le jeu fait de passes très rapides.
Reynald Denouex.
Beaucoup de passes pour arriver au but, presque. La caricature, c'est qu'on ne tire jamais, on rentre dans le but avec le ballon.
Oui, c'est voilà, quasiment.
C'est magnifique à voir jouer. Reynald Denouex qui propose. Voilà. C'est un magnifique entraîneur.
Un jeu où le ballon va plus vite que les joueurs, et donc effectivement très agréable à regarder à la télévision. Au stade.
Et surtout, c'est un club, donc, comme l'a dit Younes, formateur, c'est-à-dire que c'est un club qui a un potentiel pour faire des futurs stars. Hein. Il y a eu Desailly est sorti de là, Deschamps aussi. Et là, on a quand même du. Alors, c'est des joueurs qui vont pas vous parler pour ceux qui ne connaissent pas, mais Olivier Monterrubio, Darrocha, Eric Carrière surtout, Antoine Sibierski, le milieu offensif qui marque 13 buts en championnat cette année-là, qui a surveillé comme le lait sur le feu. Leur capitaine. Très connu,
Michael Landreau, qui a été sélectionné en équipe de France.
Bien sûr, je crois qu'il est troisième gardien.
Il est troisième derrière Bernard Lama, je crois.
Ouais. Non, à l'Euro 2000, c'est encore Lama. Ah oui, peut-être c'est Ramé Lama.
Écoutez, on vérifiera.
En tous les cas, oui, c'est une équipe redoutable. On est sur un cador du championnat de France. Et effectivement, il est à Calais maintenant de relever le défi.
Exactement.
C'est pas le moment de Calais.
Ah bah non, surtout qu'il y a énormément de gens qui les attendent au tournant, puisque le stade est
surtout
plein.
Surtout
Lynn Renault. Il y a Lynn Renault, il y a Chirac aussi.
Et quand même.
Et 13 millions de téléspectateurs aussi devant l'écran.
Oui, alors Chirac, ça fout un peu la pression.
C'est une coutume que le président de la République assiste à la finale de la Coupe de France chaque année.
13
et
millions de spectateurs.
L'hymne international. L'hymne national.
L'hymne international.
Pas l'international. C'est pas ce
13
genre.
Millions de téléspectateurs. Et je ne sais pas si cette audience pour un match de foot, à part la finale de la Coupe du Monde, a déjà été dépassée.
Si, il y a eu des 20 millions, 21. Pour un match de foot, oui, mais.
Pour un match de calais, je ne pense pas.
À part la finale de la Coupe du Monde, je ne sais pas. Voilà.
On reviendra sur la bataille des chiffres plus tard.
La bataille des chiffres, le nouveau roman de Sarah.
La bataille des chiffres.
Notre équipe de fact-checking est derrière, en train de taper pour vérifier tout ça.
Les fact-checkers.
Comment ça se passe, ce match? On n'a pas envie de le raconter, mais il va falloir quand même nous le dire. Ça commence bien?
Ça commence bien pour Calais, puisque Jérôme du titre marque à la 34e.
Et là, on se dit qu'ils sont proches du titre.
Et donc on mène 1-0 quand même à la mi-temps, c'est bien, on se dit que...
Ah ouais, oh ben, toi ça y a été calésienne.
Oui, moi je suis calésienne. Okay. Moi, toi, d'ailleurs, dès qu'il y a des histoires comme ça, je me sens calésienne.
Oui et non, parce que c'est très bien, Calais mène, sauf que Calais est beaucoup plus fort dans l'adversité. Ils l'ont prouvé quand ils étaient menés contre Cannes, ils l'ont prouvé quand ils étaient menés par ailleurs. Et là, ils mènent presque peut-être un peu trop tôt. Et c'est vrai qu'à partir de la 34e, il se passe un truc un peu terrible, c'est qu'ils vont plus mettre un pied devant l'autre. Et d'ailleurs, la gueulante de Lozano, si vous croyez que là,
ce qu'on a entendu,
là, il insulte la mère de chaque joueur à la mi-temps.
Alors qu'il mène. Non, mais comme quoi, il l'a bien senti.
Oui, heureusement qu'il y avait Lynn Renault dans les vestiaires.
Il l'a bien senti, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, une causerie virulente peut parfois
peut
aussi casser les jambes de ces joueurs. Et là, je pense que c'était la fois où dans une causerie, là, il fallait peut-être aussi avoir une autre méthode. Il est plutôt aussi monotactique, hein, Lozano. Donc voilà.
En tout cas, de retour sur le terrain, c'est l'égalisation de Nantes.
Pardon, sur les notes, je sais pas si c'est moi, Younes, qui a écrit erreur technique, imprécision, c'est le pompon.
Ça fait beaucoup rire. Et
malheureusement, l'aventure va se terminer, va se clôturer par un coup du sort. C'est tragique.
Pour raconter, il y a un partout jusqu'à la 90e minute, jusqu'à la dernière minute. Et après, il peut se passer les prolongations, les tirs au but. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a un partout. C'est Sibierski d'ailleurs qui marque le premier but, celui qu'il fallait surveiller. Bien joué les gars. Et il se passe que sur un centre d'Olivier Monterrubio qui vient de rentrer, le ballon arrive jusqu'à Caviglia qui vient de rentrer aussi. Oui. C'est aussi l'avantage des clubs professionnels, c'est qu'ils peuvent faire rentrer d'autres professionnels.
C'est qu'il y a une profondeur de banc.
Caviglia, superbe buteur par ailleurs, mais qui va se faire bousculer un petit peu par
la surface de réparation.
Par Baron. Ouais. Et il va se jeter. Alors magnifique. Alors peut-être qu'il y a faute, je crois qu'il y a faute. Mais c'est vrai que
c'est tellement beau que ça devient un geste technique.
sa manière de se jeter et d'en faire trois caisses, comme dans les pires caricatures du foot.
Et oui, mais
c'est vrai que du coup, ça rajoute un sentiment d'injustice derrière.
Mais je crois qu'il y a un joueur calaisien qui dira il s'est un peu jeté, mais j'aurais fait la même chose. C'est le jeu, c'est le foot.
C'est ça.
Penalty transformé.
Alors que Cédric Schill est dessus, il touche le ballon. C'est ça qui était. Il touche le ballon et malheureusement.
Malheureusement, le dénouement est cruel. Le petit Pousset s'incline en finale contre l'ogre nantais.
2-1. Et là, on a les larmes aux yeux. Pour certains, on se lâche complètement et puis on s'effondre par terre.
C'est fou parce que tu pourrais te dire, mais c'est normal de pleurer, mais c'est tellement extraordinaire ce qu'ils ont fait et ils ont l'air encore plus désespérés que quand l'équipe de France se fait battre par je sais plus qui là.
La Suisse.
M'a saoulé. Ah oui, c'est ça.
Non, désolé.
Je vois pas du tout.
Non, ça n'existe pas.
Non, mais ils ont l'air tellement tristes, ça m'a brisé le cœur.
Oui, c'est une forme de l'amertume en fait qui commence à s'installer.
C'est assez marrant parce que Lozano il dit d'un côté, en même temps on n'allait pas aller en Coupe d'Europe, enfin fallait mieux que ça s'arrête là presque, comme s'il voulait
se persuader
que de ça. Et il y a des joueurs qui ont cru petit à petit, qui étaient si proches
à raison,
toucher leur rêve.
Ouais, bien sûr, à raison.
Et il y a une très belle peut-être image aussi finale, c'est que Mickaël Landreau, donc le gardien du FC Nantes et capitaine, va proposer au capitaine calaisien
Réginald Beck
exactement de venir soulever la coupe avec lui.
Oui, tout
ça,
à fait.
Beau, ça.
Alors ça, c'est une photo qui est à l'intérieur même de la Fédération Française de Football, affichée en très grand, qui fait toute une partie d'un grand mur. Et c'est aussi cette image qui symbolise aussi le rêve que les amateurs peuvent nourrir quand ils participent à la Coupe de France. Une coupe de proximité, mais ce n'est pas pour la rabaisser, c'est une coupe qui est surtout une coupe pour tout le monde et pour tous.
Oh, bien sûr, parce que même s'ils ne l'ont pas remporté, ce qui est beau, c'est qu'ils aient déjà réussi à aller aussi loin, vu le bruit par terre.
Voilà, ils ne l'ont pas complètement soulevé, mais ils l'ont touché. Voilà.
Là où Nantes, ils ont fait 6 tours pour arriver en finale, Calais, on en fait 5 ou 6 de plus. C'est énorme.
58.
Ils ont fait 58 tours de terrain. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, qui renforce aussi ce côté très beau et très unique de ce groupe, c'est que Lozano, il a voulu emmener les 24 joueurs.
Oui.
Tous les joueurs qui ont participé
une
à cette aventure, il les a tous amenés à Paris, ce qui n'est pas le cas. En général, tu fais un groupe réduit de 16, 18.
Oui, complètement.
Et là, il a amené tout le monde parce qu'il estimait que tout le monde devait et méritait d'avoir sa place.
Voilà. Alors, j'aimerais citer le nom de chacun. Parce que j'ai le nom de chacun. Et pour leur rendre hommage, alors je m'excuse déjà à l'avance pour ceux qui écouteront et ceux à qui j'écorcherai le nom de famille. Donc, les gardiens.
Tu viens d'écorcher, ce qui est assez drôle.
Les gardiens, David Duconnois et Cédric Schill, on en a parlé. Les défenseurs, Fabrice Baron, Réginald Beck, Pierre-Marie Brunoig, Donat Darcy, Grégory Devart, Benoît Lestavel, Cédric Liébar, Jocelyn Merlan, Thierry Vaillant, Grégory Vasseur. Les milieux de terrain, José Boulanger,
super, allez,
Anthony Bulot, Stéphane Canu, Cédric Jandot, Christophe Hogard, Grégory Lefebvre, Mathieu Millien, Emmanuel Vasseur, Christophe Vermandel. Les attaquants, Jérôme Dutitre, Michael Gérard, Claude Rioux. Et bien entendu, l'entraîneur avec son staff, Ladislas Lozano, l'entraîneur adjoint Philippe Bram, Richard Elena en entraîneur adjoint, manager général Claude Thiriot et le kiné Didier Fourquet.
Il y a aussi l'ingé son dont on n'a pas parlé.
Bravo à eux.
Bravo à eux et ils resteront à jamais dans l'histoire du football français et du football mondial.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que Calais refait une très belle Coupe de France en 2005-2006.
Oui, ils sont toujours en CFA. Ils arrivent jusqu'en quart cette fois-ci.
Et ils sont battus par qui ?
Le FC Nantes.
Le FC Nantes.
Le sort s'acharne.
Et maintenant, le club n'existe plus, ce qui est un peu triste. Ils ont été dissous. Les problèmes d'argent les ont rattrapés. C'est plus le stade Julien-Denis, c'est le stade de l'Épopée.
C'est le stade de l'Épopée.
Un plus beau stade.
Beaucoup plus beau stade. Et alors, je ne sais pas si l'annexe existe toujours.
Non, l'annexe n'existe plus.
C'est pour ça le club a été dissous.
Voilà.
Et maintenant, il y a un autre club qui vient d'arriver. C'est le Grand Calais Pascal FC.
Le Grand Football Club, oui, tout à fait.
Le grand frère.
Voilà. Donc c'est quand même une ville de football. C'est une ville de football amateur. C'est une ville très puissante encore en population et en ferveur. Quand le match a lieu, les gens se déplacent. Le stade de l'Épopée, malheureusement, n'est pas homologué et n'est pas aux normes, donc il nécessite...
Non, c'est pas vrai.
Oui, ouais, il nécessite...
Du coup, il joue sur l'annexe.
Quelques améliorations pour pouvoir justement accueillir un club qui peut accueillir un club de Coupe de France, notamment en Division 2, etc. Mais on est sur une terre de football et une terre de passion.
Eh bien, écoutez, prochain week-end à Calais. En attendant, je vous propose de passer à l'antidoping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle antidoping. Donc, il fallait faire la petite chose.
Ah, excusez-moi. J'en pouvais plus.
Ça soulage.
Ça soulage de ouf. Alors du coup, pour fêter mon retour, non contente de parler du foot, je vais également parler d'un autre sport qui est carrément dans mon top 2, c'est-à-dire le tennis.
Ouais.
Le tennis, puisque je vais pas seulement vous parler d'un incroyable athlète au parcours fou, mais également un survivant. Je vais parler de Richard Norris Williams. C'est pas très loin.
Okay.
En vrai, c'est pas très loin. Alors, Richard Norris Williams, également appelé Dick, et ça, je passerai pas deux minutes, mais un jour on en parlera de pourquoi les Américains appellent leurs enfants Dick. Ouais, c'est un sujet qui me fait pas du bien.
C'est les Richards. En général, on les appelle Dick.
Oui, d'accord. Mais...
Et donc, c'est un jeune homme, du coup, d'origine américaine, mais né à Genève en 1891, pardon. Qui du coup va tirer son goût de la balle jaune de son père qui est avocat, mais aussi un immense passionné de tennis et qui sera aussi à l'initiative de la fondation de la Fédération Internationale de Tennis, qu'il ne verra malheureusement pas de son vivant. On en parlera après pourquoi. il fait en fait de son fils un jeune champion en herbe, puisqu'en fait, dès l'âge de 12 ans, il est champion junior suisse. Ce qui est plutôt pas mal.
Oui.
Mais Dicky n'est pas seulement un muscle, c'est
Dicky.
C'est également une tête, puisqu'il a accepté à l'âge de 21 ans à Harvard. Et du coup, avec son père, eh bien, ils vont retourner aux États-Unis. Sauf que en 1912, Younes, il y a quoi comme transport? Moyen de transport.
Le cargo, les chalutiers.
Les chalutiers, mais un peu plus gros.
Ah bah les navires, le Titanic
par exemple. Le Titanic, et oui, ils montrent tous les deux.
1912, je me souviens.
Du Titanic,
la Gazette, je me souviens de ce jour, la Gazette.
Tu t'en souviens?
Oui, avec la Titanic.
T'as failli aller toi.
Bah moi j'ai raté mon train, voilà, pour y aller. J'étais bloqué à la gare Saint-Lazare.
Alors pour les gens qui savent pas comment se finit Titanic, il y a un podcast qui parle du film. Je crois que ça s'appelle 2 heures de perdu, voilà. On leur envoie des auditeurs, ça leur fera plaisir.
Bah, ça leur fera du bien.
Et pour les autres, bah, du coup, on ne s'étonne pas que malheureusement, sort tragique. Alors, papa Williams décédera. Il y a une cheminée qui lui est tombée dessus, c'est tragique.
Ah oui.
Et par contre, le petit Dicky, il arrive quand même à s'accrocher à un canot de sauvetage qui du coup, l'emmènera jusqu'à... c'est quel bateau qu'il est ? Voilà, le RMS Carpathia. Qui va du coup les remonter, sauf que en fait Dicky, il a passé des heures avec les jambes plongées dans l'eau froide, et en fait quand il remonte sur le bateau, tout le monde lui dit non mais en fait là, on pense qu'il faut amputer. Et Dicky se laisse pas démonter, il dit non, ces jambes, je vais en avoir besoin. Et du coup pendant des heures après, il va marcher sur le pont jusqu'à retrouver les sensations dans ses membres inférieurs, donc c'est quand même une sacrée volonté.
Il avait des Mr Freeze à la place des jambes.
Et déjà, mais du coup c'est hyper solide lui, parce qu'après 12 semaines plus tard, eh bien il est déjà sur les cours du Longwood Challenge Bowl à Boston. Il est face à Carl Howell père, un autre survivant du Titanic d'ailleurs, donc je pense que l'ambiance a dû être glaciale. Elle est trop bien celle-ci, je l'avais notée. Et lui, Carl est en fin de carrière, Dick un début de carrière, du coup il s'impose complètement face à lui en 5-7 et il prend son envol ensuite. En 1912, il remporte le premier titre en grand chelem en double mix avec Mary Brown aux championnats nationaux des États-Unis, donc l'US National Championships, qui devient ensuite l'US Open. Donc il y a plein de trucs qui ont changé entre temps, c'est fascinant. Après, il va intégrer l'équipe américaine de Coupe Davis avec laquelle il remporte le trophée en 1913, 1921, 1923, 1925 et 1926.
Ah oui.
Il est champion de Wimbledon en double homme avec Chuck Garland en 1920.
Qui est aussi un rescapé de Titanic.
Non, c'est bon, à un moment il a dit ça suffit, vous me portez la poisse et tout, on s'entend mal, bref. Et entre-temps, il va servir quand même l'armée américaine pour la Première Guerre mondiale. Il sera récompensé de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre.
Pas mal.
À 33 ans, il fait partie de la délégation. Je parle un peu vite, désolé, c'est l'émotion Dicky, tout ça.
Il n'y a pas de souci, c'est le Titanic.
Il va venir cocorico à Paris en 1924, puisqu'il fait partie de l'équipe américaine du coup pour participer... à la compétition. Bon, malheureusement, il est éliminé en quart de finale en simple homme
par Younes.
Par un Français, donc Younes. 7-5, 3-6, 2-6, 4-6. Bravo Younes.
Bravo. C'est pas André Lacoste, le crocodile, qui l'élimine. J'ai un vague souvenir.
Non, il s'appelle Henri Crochet.
Ah, le fameux Crochet.
J'aime bien son nom, il est Henri Crochet.
Alors, Crochet, je t'ai accroché.
Et en double également, donc ils se font sortir en quart. Il était accompagné de Watson Washburn et il s'incline face au Sud-Africain. Jack Condon et Ivy Richardson. Par contre, en double mix, il va faire équipe avec une jeune femme qui s'appelle Hazel Hotchkiss Winkman, qui vient de s'imposer en double dame en compagnie d'Hélène Wills Moody, donc la championne américaine du simple. Et tous les deux, ils vont bénéficier déjà du forfait des Français, Suzanne Lenglen et Henri Crochet.
Suzanne Lenglen, bien sûr.
Ah oui. Donc du coup, forfait pour ces deux-là, ce jour-là. Donc,
mais forfait avec toutes les options. Toutes les options ou...
Ouais, mais c'était des Nokia, des vieux Nokia. C'était un peu, là, franchement, abusé, quoi. Et ils vont remporter les 3 matchs suivants pour se retrouver en finale le 21 juillet face à leurs compatriotes. Marion Jessop et Vincent Richards.
Oh non, ils vont
Vincent Richards qui est vainqueur du simple homme. Et il l'emporte 6-3.
Je suis rassuré.
Et oui, quand même. Donc ça fait pas mal de médailles au cou de notre cher ami Dicky, qui deviendra membre du International Tennis Hall of Fame en 1957 et sûrement du coup pour relier à son enfant suisse, deviendra ensuite banquier.
Merci. J'ai vu qu'il allait devenir un chocolat.
C'est l'un ou l'autre hein, en Suisse. Oui. Soit tu deviens chocolat, soit tu deviens banquier.
Très bien, très bien.
Merci beaucoup, Chloé. Merci à vous pour cette magnifique émission.
Merci,
on se retrouve dans un mois. Oui. En attendant, retrouvez-nous où ?
Bah, peut-être en écoutant les autres podcasts de Fréquence Moderne.
Oui,
déjà.
Par exemple.
Relire Tintin.
Enfin, 20 minutes.
Culture 2000.
20 minutes avant la fin du monde.
Et 2 heures de perdu. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Mais oui, allez, abonnez-vous, lâchez du like.
Tweetez comme des fous.
Mentionnez
Younes.
Tweetez en mentionnant Younes.
Bande de tweetos.
Et avec un peu de chance.
Tweetez, vous savez, on va lancer le hashtag Je suis vieux comme Younes. et voilà, n'hésitez pas, je suis vieux comme
Younes. On le veut
vous
en aussi. Top tweet France.
On veut en top tweet. Je suis vieux comme Younes, j'ai connu ça. Voilà, n'hésitez
allez
pas.
Les tweetos.
Et puis, bah, on vous dit au mois prochain.
Au mois
à
prochain.
Bientôt tout le monde.
Salut.
Salut.
The P. My shit be popping out the record store as if it was a drug house.